Bonjour à toutes et tous. On a à peine le temps de s'installer. Le générique a déjà démarré, mais voilà, on commence à l'heure. En tout cas, bienvenue Place d'Herbès. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui Abigail Assor et Alexandre Lenot pour un dialogue autour de leur roman. Donc pour vous, Abigail Assor, La nuit de David, paru chez Gallimard, et pour vous, Alexandre, Cette vieille chanson qui brûle, paru aux éditions de Noël. Alors, premier point commun entre vous, il s'agit d'un deuxième roman, puisque Alexandre, vous aviez précédemment publié Écorce vive chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, et Abigail Assor, votre premier roman intitulé Aussi riche que le roi avait été récompensé par plusieurs prix, dont le prix Françoise Sagan, je crois. Alors, évidemment, au-delà de ça, il y a plusieurs autres points communs dans vos deux romans. C'est pour ça qu'on vous a réunis. Le plus évident étant la gémellité, hein, puisque voilà, vos personnages principaux sont des jumeaux et vos narrateurs sont frères jumeaux, David. Alors, il est atteint d'une maladie mentale qui n'est pas nommée. En tout cas, c'est un garçon un peu étrange, parfois pris d'accès de fureur. Et tous deux grandissent dans une maison en région parisienne, au bord du Loing, avec quelques échappés dans une maison au bord de la mer pendant les vacances. Ils grandissent auprès d'une mère qui a renoncé à sa carrière d'actrice pour élever ses enfants, et d'un père qui bricole un peu, voilà, qui change régulièrement d'activité, qui construit des boomerangs, après qui décide de construire des vélos couchés, et puis il y a la grand-mère qui est là, qui habite juste à côté et qui, on sent qu'il y a une influence assez importante sur cette famille. Et voilà, ce qui est très beau dans ce livre, c'est la manière dont vous décrivez ce monde clos de l'enfance et cette relation très très fusionnelle entre cette sœur et ce frère qui s'invente un langage qui les sépare du monde des adultes. Et puis c'est un livre également dans lequel vous interrogez au fond la frontière floue qui sépare ce qu'on appelle la folie, avec tous les guillemets nécessaires, et la prétendue normalité, là encore avec tous les guillemets nécessaires. Alexandre Lenot, cette vieille chanson qui brûle est aussi un retour sur le passé du narrateur qui s'appelle Noé. Alors, quand le récit commence, il a 18-19 ans. Enfant, il a vécu avec son frère jumeau Jérémy auprès d'un père qu'il surnomme l'Enfurier, donc un père violent, un père tout puissant, une sorte de Zeus comme ça, et aussi une sorte d'homme des bois qui pendant leurs 10 premières années a gardé ces deux garçons jalousement coupés du monde. Et puis à un moment, bah, ils sont rattrapés par la société, par l'école, et là ils vont découvrir le monde et la société. Et puis quand le récit commence, Noé rend visite à son père après la mort de Jérémy dans des conditions tragiques, et pendant tout le long du trajet, il va ressasser, remâcher tout ce qu'il va dire à son père en vue peut-être d'une réconciliation. Première question assez simple pour vous deux. Est-ce que le cap du deuxième roman a été difficile à passer? Je ne sais pas qui veut commencer.
Pour moi, ça a été extrêmement difficile. Je me souviens d'avoir beaucoup tâtonné, d'avoir eu très peur, d'avoir senti énormément de pression. Je pense que, enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, Alexandre, mais il y a de mon côté eu cette envie de prouver que le premier roman n'était pas un jaillissement et un hasard, que c'était vraiment un engagement, en fait, la littérature est quelque chose que je voulais continuer à faire. Et j'avais à la fois envie de prouver ça et aussi peur que, en fait, le premier roman était un jaillissement, un hasard. Et je pense que c'est quelque chose que je voulais prouver aux autres, mais aussi à moi-même. Donc j'ai beaucoup tâtonné, j'ai commencé quelque chose que j'ai arrêté, puis j'ai commencé La nuit de David, et j'avais beaucoup de doutes sur comment je me situais, quel type d'écrivain j'étais. J'ai douté de ma capacité à finir une deuxième fois. Et encore aujourd'hui, je suis très étonnée d'avoir terminé ce livre et qu'il soit publié.
Alexandre, vous avez au fond franchi deux caps, puisque c'était un deuxième roman et c'est aussi un passage de la littérature noire à la littérature blanche.
Alors ça, j'y ai pas tellement réfléchi. De la même manière que pour le premier, quand il est sorti en noir, il était à la lisière des genres et que finalement que ça tombe d'un côté ou l'autre de la barrière, ça m'importait pas énormément. Après, je me retrouve évidemment dans ces mots-là. C'était très très difficile, très long, très pénible. Beaucoup de moments où effectivement je me suis dit en fait je n'avais qu'un seul roman en moi et ben voilà, il a été fait, donc restons-en là. Et puis je m'en suis beaucoup voulu d'avoir choisi ce sujet-là. Clairement, il y a eu le moment donné où je me suis dit t'aurais pu prendre un truc peut-être plus facile pour la deuxième marche, quoi. Je me suis comme senti bloqué par des contraintes de départ qui m'emmenaient sur un chemin vachement plus escarpé que ce que j'imaginais. Voilà. Et puis après, il y a des vicissitudes de la manière où on a un premier roman qui est un petit peu remarqué, qui a des prix, qui a des choses comme ça. Je trouve qu'on perd beaucoup en spontanéité, en naïveté, en candeur vis-à-vis de l'écriture, alors qu'il faut être justement réussir à se détacher de tout ça pour écrire, je pense. Et moi, j'ai eu de la chance de participer à une résidence qui rassemblait des auteurs qui en étaient tous au stade de la deuxième œuvre. Et pour une fois, on donnait pas des ateliers d'écriture, on en recevait, avec une invitée du festival, qui est Julia Deck, qui nous encadrait. Et à un moment donné, elle nous a demandé de représenter par un collage nos plus grandes peurs liées au texte en cours. Et je l'ai encore, le collage, et je le regarde de temps en temps, parce que c'est pas des peurs qui sont liées au texte, c'est vraiment des peurs qui sont liées au statut de l'écrivain et à tous des trucs d'identité sociale et de jeu comme ça, dont il fallait en fait se détacher complètement pour être capable d'écrire. Et il faut, je crois que la sortie d'un livre nous projette dans un monde et dans un jeu qui, assez paradoxalement, nous empêche d'écrire, quoi.
Un jeu social.
Ça me fait penser que quand j'étais complètement bloquée en écrivant mon deuxième roman, une des choses qui m'a aidée, ça a été d'affronter ma pire peur, qui était en l'occurrence recevoir une critique, mais vraiment humiliante. Enfin, vraiment, cette jeune femme n'a pas le droit d'écrire, il faut absolument qu'elle se taise. Et donc, j'ai décidé de décrire ma pire critique. Et j'ai toujours ce petit texte, donc c'est vraiment une critique odieuse sur mon livre qui dit toutes les choses que j'ai peur d'être, donc une mauvaise écrivaine, c'est vraiment un livre qui n'a aucun intérêt, pourquoi Gallimard publie de telles inepties. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'affronter la critique, de voir qu'elle était devant mes yeux, j'en suis pas morte, je peux la vivre, et j'ai écrit avec un tout petit peu plus de liberté après.
Mais les critiques littéraires sont-ils si méchants?
En général, ils sont plutôt...
J'en suis pas sûre.
Moi, je l'ai eu, la critique odieuse.
Ah oui.
J'ai eu, avec qui cet homme a-t-il couché chez Actes Sud pour être publié?
Quelle horreur.
Voilà.
On ne veut pas de nom. Vous disiez à l'instant, Alexandre, au fond, dans quoi je me suis embarquée avec ce sujet, mais c'est curieux que vous disiez ça, parce que au fond, enfin, il y a plusieurs sujets dans ce roman. Évidemment, il y a cette question de la relation gémellaire, mais il y a aussi la relation au père, et il y a aussi la question de l'environnement et de la préservation d'un milieu naturel en voie de disparition, un sujet très politique au fond. Donc il n'y a pas un seul sujet dans ce livre.
Ouais, non, c'est une faute de langage de ma part. C'est pas tellement avec ce sujet, c'est avec ce dispositif initial. Se dire voilà, je me suis très vite retrouvé avec cette image de deux frères au bord d'une rivière, loin de la société, avec la société qui se rapproche d'eux au final, qui finit par les engloutir. Et le roman d'apprentissage d'émancipation adolescente, qui est un genre quand même hyper balisé, et avec des œuvres que moi je vénère en plus, vraiment spécifiquement dans ce champ-là. Et il faut arriver à se dire à ce moment-là, ouais, je vais essayer d'écrire les oiseaux, mais à ma sauce. Bon. c'est voilà, il faut l'assumer quoi. Et le parce que le sujet du livre en fait, il m'apparaît au fur et à mesure. Moi, je pars pas avec une, je pars avec plein de petites choses que j'ai rassemblées, et plein de citations, d'images, de petits bouts de texte que j'ai produits sans savoir ce que c'était au préalable et des choses comme ça. Et puis le livre, il avance de lui-même, et un peu comme le narrateur, il marche quoi sur sa route, et c'est vraiment à la fin que je sais de quoi ça parle, que je, en le relisant et en parlant, et mais j'ai pas de, bah, j'ai trouvé là il y a très peu de temps, mais a posteriori, une citation de Giono justement qui dit Boileau avait tort, il faut pas connaître les choses pour en parler, il faut juste les deviner. Et moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je savais que le rapport à la nature et au monde naturel et au danger dans lequel il se trouve était important pour moi. Je savais que le lien fraternel était très important pour moi, que c'était quelque chose que je voulais explorer avec mes armes. Un mystère là-dedans qu'il fallait désépaissir au fur et à mesure. Mais je me suis à aucun moment dit « je vais écrire un roman sur la fraternité » ou « je vais écrire un roman sur la lutte écologique ». Enfin, voilà, tout ça, c'est... Ça vient petit à petit. Du coup, ça fait un livre à strates, effectivement.
De même que chez vous, Abigail Assor, ce n'est pas un livre sur la maladie mentale. C'est un livre qui parle de cette relation entre un frère et une sœur. C'est un livre sur l'enfance. Enfin, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le livre, au fond, apparaît au fur et à mesure de l'écriture?
Oui, alors il s'est déployé petit à petit. J'avais vraiment cette image de ce petit garçon David, c'est comme si je l'avais rencontré, ce petit garçon. J'ai eu son image très clairement et j'ai voulu écrire sur lui. Je sais pas exactement quand est arrivée cette histoire de jumelle et cette jumelle qui est la narratrice. En tout cas, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre sur des jumeaux ou sur le lien dans la jumélité. C'est pas quelque chose. Qui me parlait initialement. C'est vraiment arrivé comme ça, un peu comme des sortes d'intuitions ou d'évidences où évidemment il a une jumelle, et évidemment qu'elle s'appelle Olive, évidemment que c'est elle qui parle. Ça s'est fait beaucoup comme ça, par des images très fortes, des sortes de rencontres. Mais ensuite, il y a quand même toute une partie, ça c'est la partie plutôt intuitive, et il y a toute une partie de... où je prends un peu de recul et je me dis, bon, il y a quand même un livre à faire à la fin et il faut que les choses soient là pour une raison. On met pas un fusil dans la première scène pour qu'il disparaisse. Et donc, j'ai alterné entre des moments complètement intuitifs où je tâtonnais et j'allais vers les images qui me traversaient, et des moments avec plus de recul où j'essayais de comprendre ce que j'essayais de raconter. Et c'est au bout peut-être d'un an d'écriture que je me suis rendu compte que c'était aussi beaucoup le thème de la folie qui m'intéressait. Alors le livre parle pas du tout de maladie mentale, il parle peut-être même de l'absence de maladie mentale, puisque la question de savoir si ce petit garçon David est fou, le livre n'y répond pas. Le livre pose la question de ce que ça veut dire être fou, de est-ce qu'on peut rendre un enfant fou, est-ce qu'un enfant réagit à son environnement, est-ce que ce petit garçon il a développer ses façons de réagir à cause de ce dans quoi il grandissait, ou est-ce qu'il est né comme ça. Le roman, il répond pas. Mais la figure du fou, moi, m'a toujours beaucoup intéressée. Et il y a eu un moment, en tout cas, où je me suis dit, là, je vais essayer de parler de la folie chez l'enfant et de ce qu'on considère potentiellement fou chez l'enfant. Et j'ai commencé à faire des recherches en ce sens-là à ce moment-là, mais j'ai pas commencé le livre avec cette idée-là.
Dans le cas de vos personnages, Alexandre, alors c'est pas la question du fou, c'est plus la question du marginal au fond qui est importante avec cette figure du père qui choisit de vivre à l'écart de la société.
Ouais, de la façon dont une société peut accueillir la différence, ouais. Et même au sein d'une famille, je dis la société, c'est une espèce de grande abstraction, mais il y a effectivement cette espèce d'enfance semi-sauvage. Voilà, c'était une des images de départ, une photo de Saliman qui prenait ses enfants.
Une photographe américaine.
Dans le sud des États-Unis, dans les années 80, je pense qu'elle scolarisait ses enfants quand même, mais ils jouaient nus dans la nature autour de chez elle, et elle a pris beaucoup de clichés de ses enfants, et cette image-là me parlait beaucoup. Et donc, il y a cette volonté d'être en dehors qui est, je crois, un désir qui nous traverse tous à un moment donné. Et on se rend bien compte qu'on peut pas vraiment, on peut juste s'éloigner. Enfin, c'est une question de focale. Et de... Donc voilà, comment on fait pour être en dehors? Comment on fait pour être accepté quand même quand on est en dehors? Qu'est-ce que... Et puis, il y a, au sein même de la structure familiale dont il est question, il y a un père qui se retrouve pas sur le visage de ses enfants et qui questionne ça parce qu'ils sont pas de la même couleur et eux ne connaissent pas leur mère, donc ils sont dans l'étrangeté, dans le flou absolu. Et derrière cette question de l'étrangeté, du coup, il y a la question du récit. Il y a la question de quel récit on sert aux gens qui sont pas assignables, quoi, qui sont pas précisément de gauche ou de droite ou d'en haut ou d'en bas ou noir ou blanc ou... Et donc le narrateur prend à sa charge le récit parce qu'il n'y a pas de récit et que sans récit on tient sans histoire à se raconter on peut pas vraiment tenir debout quoi donc et ça c'est l'expérience qu'il a eue de son existence donc ce chant là cette espèce de chant funèbre qu'il se récite sur le trajet c'est une façon de cartographier un peu son existence et de se dire ben d'où suis-je finalement et il y a un moment du texte où il arrive à dire nous ne sommes pas nés de toi nous sommes nés de cet endroit-là et
il y a dans vos deux livres alors de manière différente mais une dimension mythologique chez vous Alexandre et plus une dimension de conte dans votre livre Abigail avec cette alors le conte évidemment c'est l'enfance mais je pense à cette figure puisque donc David aime tellement les trains qu'il voudrait devenir un train et donc il rêve à un train garou et donc voilà tout ça tous ces éléments là ramènent au conte. Est-ce que vous y avez pensé en écrivant?
J'aime beaucoup les contes et la littérature que j'aime lire elle a souvent des aspects de conte. J'aime bien les univers clos avec des images qui reviennent, les choses très cycliques avec des images très fortes. C'est vraiment les choses que je préfère lire et que je tends en tout cas à faire parce que ce sont les choses qui m'intéressent plus que les romans fleuves et les traversées un peu plus éclatées. J'aime bien ce qui est resserré en littérature et souvent ça s'apparente au conte effectivement. Et puis le fait qu'il y a tout cet univers de l'enfance, que David est un enfant un peu fantasque, qui effectivement adore les trains, donc il veut devenir un train et il imagine le jour où il sera un train et il roulera sur la mer parce qu'il sera un train capable de rouler sur la mer. Il imagine toute cette vie, on est embarqué avec lui et puis il embarque particulièrement sa sœur, Olive, qui est à la fois complètement dans le monde des adultes quand elle est avec eux et qu'elle pose le regard adulte sur son frère, de ce petit garçon un peu inquiétant, finalement un peu dangereux, avec ses idées un peu folles. Et puis parfois complètement dans le monde de l'enfance quand elle est avec lui et qu'elle a envie aussi d'être près de lui. Donc il lui dit qu'elle sera un oiseau, lui sera un train, et ils voleront ensemble. Et en tout cas, c'est des passages que j'ai pris énormément de plaisir à écrire parce que je me reconnectais aussi, moi, à mes propres images d'enfance et la liberté de création qu'on a à ce moment-là.
Et pour vous, cette dimension mythologique, alors il y a aussi une dimension biblique, hein, puisque vos deux personnages portent des prénoms...
De prophètes, oui, des prénoms de la Bible. Moi, déjà, dès le premier, on m'avait fait cette analogie au conte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me traverse beaucoup. Là, en l'occurrence, je sais pas si toi t'avais ton titre dès le départ, mais
non.
Moi j'avais mon titre dès le départ avant même de savoir quel était de quoi ça allait parler quoi. Je l'avais entendu dans une chanson et je m'étais dit ouais je veux écrire un truc qui ressemble à une vieille chanson qui brûle et ça du coup ça c'est péréquin quoi. C'est une contrainte de départ qui emmène sur une forme d'écriture particulière et qui fait que on peut pas non plus. C'est-à-dire qu'au début j'ai essayé d'écrire comme j'écrivais avant, enfin, ou un roman beaucoup plus classique avec un narrateur omniscient et la troisième personne du singulier. Et ça allait pas avec le titre et ça allait pas avec la musique que j'entendais. Donc Et moi, ce qui m'attirait là-dedans, c'était de se dire voilà, qu'il y a des récits comme ça qui semblent venir du fond des âges et qui, pourtant, nous parlent vraiment d'aujourd'hui. Et c'était cette espèce de paradoxe apparent qui m'intéressait.
Oui, puis il y a cette louve, quand même.
Et il y a des figures, ouais, il y a des figures très archétypiques de. Mais justement, quelque part, l'enjeu du récit, c'est d'aller dans la nuance et de déconstruire un peu les archétypes. Et donc, il y a un père qui est vraiment un ogre dès le départ. Et puis, au fur et à mesure du récit, finalement, de moins en moins, on se rend compte à quel point il est victime lui-même. On se rend compte que le narrateur et les enfants se sont rendus compte au fil de leur enfance que s'il leur devait beaucoup de la violence qui les habite, ils leur doivent aussi les livres, la trace des animaux, enfin, plein de choses qui les ont construits aussi, même si ça a été dispensé de manière peut-être brutale. Et il y a une figure de loup qui sert de... Ouais, c'est comme si une personnification du songe, quelque part, quoi, des rêves que peuvent faire ces enfants à partir de la terre où ils sont, de l'endroit où ils sont. Quoi ils peuvent rêver, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer en partant de là, quoi.
Comment avez-vous trouvé la voix, cette voix à la première personne qui est à la fois la voix de l'adulte et la voix de l'enfant? On alterne un peu dans la perception entre les deux.
Au moment où j'ai imaginé le personnage de David, il n'avait pas de sœur jumelle et j'ai été confrontée à l'impossibilité totale chez moi de parler depuis David. Et donc de dire un jeu qui serait le jeu de David, je ne sais pas d'où vient cette impossibilité. Je pense qu'il y a aussi le fait de vouloir maintenir cette confusion autour de la folie peut-être était rendue impossible par un David qui dirait « jeu ». Il y a peut-être la peur, moi en tant qu'autrice, de m'approcher trop près de ce petit garçon que peut-être moi aussi je trouve un petit peu dangereux, et en même temps l'envie de lui donner cet amour-là. Et assez naturellement, l'idée d'une narratrice qui serait à la fois extérieure à lui mais très très proche de lui est arrivée jusqu'à la toute première page que j'ai écrite. Elle était déjà là, il y avait déjà un jeu. Je ne savais pas encore qui était ce jeu, je ne savais pas qui était Olive, je ne savais même pas que c'était sa sœur jumelle. Mais ça ne pouvait pas être David qui parle. Et comme moi-même, j'avais ce regard sur lui qui était très proche et très lointain, ça a donné cette voix à la fois très adulte et parfois très ancrée dans les moments d'enfance. Mais ça s'est construit un peu malgré moi et Olive s'est construite un peu... pour reprendre une idée biblique, depuis le flanc de son frère. Elle est née par David comme Ève est née d'Adam. Elle est née vraiment de lui. Et peut-être qu'elle n'a existé que pour dire qui était ce petit garçon.
Vous disiez à l'instant, Alexandre, que vous ne pouviez pas écrire ce livre comme le précédent, pas un récit linéaire. Donc, il y a un souffle très très singulier dans cette langue, hein, des longues phrases sans virgule, sans point. Enfin, il y a très 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 peu de points. Il y a quelque chose qui se déroule comme ça d'un seul souffle. D'où c'est venu cette façon d'écrire?
C'est un peu un mystère. Ça m'est venu sur un vélo sous la pluie, voilà. Mais vraiment, après de multiples essais dans tous les sens, moi j'étais très dans les récits qui m'ont marqué dans les années récentes, sur un peu qui explorent un peu cette forme-là et qui sonnent aussi comme un récit un peu antique. Il y a eu le livre d'Antoine Wauters qui s'appelle Marmoud ou la montée des eaux. Et à un moment donné, je me suis même dit, je l'ai beaucoup relu pendant l'écriture parce que c'est un livre très libre. L'auteur est très très libre de sa forme, quoi. Il s'affranchit de beaucoup de choses. Et j'ai même été jusqu'à un petit peu le copier, quoi, à faire vraiment un poème en prose avec un retour à la ligne systématique. Ça n'allait pas non plus. Et finalement, c'est à force d'essais, de contre-essais et de retours en arrière que j'ai trouvé cette forme qui correspond à vraiment très précisément à ce que vit le narrateur. Et c'était là où, d'un coup, tout avait du sens. C'est-à-dire que le narrateur, il est sur une route qui va chez son père. Il avance, mais il avance vers son passé en même temps que vers son avenir. Il avance vers une confrontation, mais pour aller jusqu'à la confrontation, il faut qu'il redise tout ce qui s'est passé avant. Et donc, il est dans une espèce de mélopée incantatoire, de très cyclique, très qui ressemble à un chant peut-être grégorien ou autre. Et donc, la langue devait épouser ce rythme-là, et en me permettant des variations harmoniques d'une certaine manière, ou des variations de rythme, parce que de temps en temps, il s'énerve. De temps en temps, il n'y arrive plus. De temps en temps, il suffoque. De temps en temps, il manque de souffle. De temps en temps, à l'inverse, il est subitement complètement écrasé par ce qu'il vient de dire, et comme après une défaite, quoi, extrêmement calme et presque assommé. Et cette forme-là, elle permettait ça. Et j'ai trouvé la correspondance, mais après l'avoir écrit, mais ils écoutent une chanson dans le livre qui leur vient de leur mère évaporée, de leur mère qui a disparu, qui est une chanson égyptienne, et la forme de la chanson égyptienne des années 50-60, c'est vraiment cette forme-là aussi. C'est une forme de j'ai pas de meilleur mot que de mélopée incantatoire.
Comment vous êtes-vous posé des questions de rythme? On parlait de cette langue, en effet, tantôt enfantine, tantôt adulte, mais est-ce que vous avez réfléchi au rythme? Il y a une tension dans le récit.
Alors moi, je constate phrase après phrase et chapitre après chapitre à quel point je suis peu libre. J'ai beaucoup de mal à me défaire de code et de dispositifs que je m'impose. La dernière fois, tu disais, c'était une autre rencontre, pardon, mais tu disais que tu t'interdisais d'écrire à la première personne pendant des années. Et en fait, je constate que moi aussi, je m'impose des interdictions, une certaine façon d'écrire, un certain code à respecter. J'ai très peur peut-être de dépasser, j'ai très peur de ce qui pourrait être en surplus, ce qui pourrait être monstrueux aussi. Je pense qu'il y a aussi cette peur dans l'écriture de laisser transparaître de soi quelque chose qui serait trop. Et donc je sens quand j'écris un immense contrôle, une immense volonté de maîtrise qui fait que j'essaye de soigner au maximum les rythmes, les mots, je les choisis avec énormément de soin. J'essaye de pas laisser les choses trop dépasser. Et dans La Nuit de David, je sais que je l'ai écrit avec énormément de retenue, ce qui fait que cette tension est maîtrisée effectivement, et que les chapitres sont contenus, ils sont retenus. Et c'était la forme qu'il me fallait pour parler d'un petit garçon fou. Je pense que j'avais peur de cette folie-là. Mais j'espère quand même que si j'écris d'autres livres, j'arriverai aussi à me libérer de ces codes-là.
Et il y a aussi dans les deux livres la question de la tragédie centrale, hein, qu'on sent dès le début. Et en fait, vous distillez des éléments, l'un et l'autre, qui vont aller vers cette tragédie, même si au fond... On la voit pas complètement. Enfin, elle reste quand même un peu hors champ. Comment vous avez traité ça l'un et l'autre?
Alors moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu viens de dire, dans le sens où j'ai une espèce d'idéal formel qui une conciliation de choses impossibles. J'ai vraiment, ce qui m'attire, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de la tragédie, mais pudique. Et du coup, ça a imposé un certain... Il faut que ce soit un jaillissement, il faut que ce soit viscéral, mais il y a quelque chose dans la littérature, et puis même dans la vie, moi, qui me touche énormément, qui a, faute de meilleurs mots, voilà, qui a trait à la pudeur, qui a trait à la retenue, qui a trait à la volonté de jamais imposer son récit aux autres, voilà, et plutôt de prendre par la main et d'emmener vers, et donc dans ce cadre-là, je pouvais pas d'entrée de jeu établir la situation telle qu'elle est et tout révéler du drame. Et alors, il y a des enjeux narratifs en plus, évidemment, parce que avec une forme de ce type-là, il faut maintenir une une sorte de tension, et c'était tout l'enjeu en fait de ce travail et de l'écriture, c'était de réussir à ce que la corde ne touche pas à terre, quoi. Pardon, je me souviens plus de la question.
C'était qu'est-ce qu'on fait avec cette tragédie qu'on, ouais, qu'on pressent dès le début.
Et par ailleurs, voilà, les récits qui m'intéressent sont quasiment tous des récits tragiques. C'est là qu'il y a une réparation à aller chercher. C'est là qu'il y a une transcendance à aller chercher. C'est là qu'une œuvre peut devenir plus que son sujet et parler de ce que c'est vraiment que l'existence, quoi. Et essayer d'être autre chose qu'un page-turner l'intrigue, elle est importante, mais seulement si moi les œuvres qui me touchent le plus, c'est celles qui m'entraînent par l'intrigue jusqu'à une sorte de révélation qui est beaucoup plus large que ce dont il était question initialement.
Je me souviens que je m'étais complètement enfermée dans un dispositif en outre au début de l'écriture. J'avais choisi d'alterner des souvenirs d'avant, donc cette fameuse nuit dans laquelle David, le personnage principal, embarque sa sœur Olive. Et donc j'alternais des chapitres de souvenirs avant la nuit et des chapitres de, enfin, la journée avant la fameuse nuit, ce qu'ils ont fait, comment ils ont préparé la nuit, etc. Et donc on alternait comme ça. Puis j'ai fait lire à mon éditeur et il m'a dit on ne comprend rien. Et effectivement, on ne comprenait rien. J'ai complètement...
C'est à ça qu'ils servent.
Ouais, heureusement. Et j'étais complètement bloquée. Je disais, mais comment je vais faire? Le livre est écrit. Et là, il me regarde, mais comme si j'étais folle. Il me dit, écris-le chronologiquement. Et donc, j'ai repris l'écriture à ce moment-là et j'ai écrit chronologiquement. Et le dispositif était beaucoup plus simple. On sait que la nuit est arrivée, on sait que ça a été tragique, on retourne dans le passé, puis on arrive petit à petit vers la nuit. Et c'est vraiment l'exemple de dispositifs dans lesquels on s'enferme parfois en écrivant, qui sont très rassurants parce qu'on a l'impression d'avoir un cadre et que on ne peut pas se perdre, on a la carte du labyrinthe, et en fait qui sont très enfermants et qui nous permettent pas du tout d'explorer autant qu'on voudrait l'histoire, les personnages. Donc j'ai pas mal tâtonné pour cette tragédie, cette nuit, pour finalement arriver à quelque chose de très simple.
Je pense aussi, je sais pas, qu'il y a des choses qu'on doit écrire mais qu'on doit pas mettre dans le livre. Des choses de l'ordre, qui sont de l'ordre du dispositif, de la cartographie du territoire du livre, mais qui pour des raisons soit formelles, soit narratives, soit qu'il faut réussir à enlever à un moment donné, comme des échafaudages ou des choses comme ça. Et effectivement, parfois on a des superbes idées de dispositifs au début, on va dire ça va être tellement malin, ça va être tellement chouette. Et puis ça ne cadre pas du tout avec le reste, c'est juste une béquille dont on s'est servi à un temps donné et qu'il faut savoir retirer à un moment.
Est-ce que vous aviez, Abigail, de la même manière qu'Alexandre a beaucoup parlé de références, d'images, de livres, est-ce que vous avez des références comme ça qui ont accompagné l'écriture de ce livre?
Oui, j'avais des livres phares qui m'accompagnaient, alors qu'ils ne parlent pas du tout du même sujet. C'est plus une affaire, je dirais, d'émotions, d'images. Beaucoup plus que de livres sur la folie, l'enfance, etc. Sur la folie et la folie chez l'enfant, j'ai beaucoup lu. C'est des livres qui m'ont... J'ai lu, en l'occurrence, un livre qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle « L'équilibre mental, la folie et la famille ». C'est un livre de deux psychiatres qui s'appellent Lange et Esterson et qui montre que... ça parle que de jeunes femmes qui ont été internées pour schizophrénie. Et ces deux psychiatres qui font partie du courant de l'antipsychiatrie vont rencontrer les familles et les jeunes femmes en question. Et conduisent des entretiens et montrent que, d'une certaine façon, si on regarde les actions, les actes qui ont conduit ces jeunes femmes à être internées, si on observe ce qui se passait dans la famille autour, ces actes peuvent être totalement intelligibles et pas du tout des signes de folie. Et qu'il s'agit moins d'une maladie mentale que d'un problème familial. Ça, c'est un livre qui a complètement lancé l'écriture de La Nuit de David. C'est tout à fait ce que j'essayais finalement d'explorer. mais c'est pas un livre qui m'a inspirée. Les choses qui m'ont inspirée, c'est des livres qui m'ont beaucoup touchée. Il y a Des souris et des hommes de Steinbeck avec le personnage de Lenny qui m'a beaucoup parlé. Et je pense que David se rapproche beaucoup de Lenny de plein de façons. Lenny, c'est un personnage qui m'a bouleversée. La première fois que j'ai lu Des souris et des hommes, je pense que j'ai pleuré vraiment sans discontinuer pendant plusieurs jours et je faisais que parler de ce Lenny. Il y a Monte Didio d'Eri de Luca qui m'a beaucoup touchée pour l'enfance, les images. Il y a quelque chose de très lumineux, très cruel dans Monte Didio que j'ai adoré. Voilà, je dirais que c'est les deux livres qui m'ont beaucoup accompagnée.
Vous avez Steinbeck en commun, non?
On a Steinbeck en commun. Mon père lit Les raisins de la colère à ses enfants.
Mais quand on vous lit, Alexandre, on pense par certains aspects à la littérature américaine, à une certaine nature writing, et puis quand même, ce personnage du père s'appelle Reclus.
Oui,
alors, est-ce que c'est Élisée Reclus, le géographe anarchiste?
Oui, c'est une sorte d'hommage, oui, de je le connais pas hyper bien, j'en ai lu évidemment. Il y a un clin d'œil familial parce que c'est l'adresse de mes grands-parents, la rue Élisée Reclus à Saint-Étienne. Et il y a la question de ce que c'est que la réclusion dans un monde voilà qui n'accueille pas la différence très positivement. Moi le roman américain a été très important pour moi à un moment donné de ma vie. Et il en subsiste en fait des sommets quoi qui ont pas été érodés par le temps. Et je pense souvent à Cormac McCarthy, quand j'écris, mais quand je pense à l'écriture en tout cas. Parce que il a... Tout à l'heure j'essayais de faire un petit jeu de mots sur la tragédie pudique. Et lui, il a le lyrisme contenu. Il a un truc comme ça qui me parle aussi énormément. Il est flamboyant, mais dans des toutes petites choses. Et là, il y a quelque chose là-dedans qui m'emporte totalement. Alors, j'ai pas pleuré pendant des jours, mais quand j'ai lu ce tri il y a plus de 20 ans. Et vraiment, je me suis pas remis de ce livre pendant de longues semaines. Il y avait quelque chose là-dedans, dans cette errance. C'est voilà, je n'avais pas fait le lien, mais c'est une histoire d'errance aussi. Et il se passe pas grand-chose dans ce tri, et pourtant, il y a tout un monde qui se déploie. Et ça m'allume.
Vous parliez à l'instant de l'enfermement. Enfin, c'est un point commun entre les deux livres, puisque dans votre livre, Alexandre, il y a cette demeure avec un D majuscule qui est un peu le château de Barbe Bleue, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et dans votre livre, Abigail, il y a aussi cette grande maison bourgeoise au bord du Loing, avec ses grilles que David tous les jours tente d'escalader pour s'enfuir. Évidemment, David qui veut être un train et sa sœur qui pense qu'ils peuvent voler. Enfin, voilà, il y a une manière de s'échapper de cette prison.
C'est le mouvement de David, son mouvement presque matriciel, c'est un mouvement de fuite. C'est un petit garçon qui crie, qui casse, qui effectivement escalade cette grille pour s'enfuir. Peut-être moins pour s'enfuir lui-même que pour montrer un chemin à cette mère qui, de toute évidence, n'est pas du tout ravie de la vie qu'elle a construite, mais tente de se persuader qu'elle l'est. Et n'ose pas elle-même faire ce chemin de fuite parce qu'elle est dans un enfermement et qu'elle fait souffrir ses enfants de cet enfermement même. Un enfant sur deux tente de faire cette action qu'il ressent chez sa mère, mais qu'il n'est pas capable de mettre en mots parce qu'elle-même ne le met pas en mots. C'est un livre où chaque personnage fait résonner le secret du personnage d'à côté. Et chacun résonne avec l'autre, et David fait beaucoup résonner ce que sa mère ne dit pas.
Oui, puisqu'au fond, on pourrait dire qu'elle a des signes de maniaco-dépression. Enfin,
peut-être. En tout cas, elle a une grande rigidité, un grand besoin que les choses ne bougent pas. Parce que si les choses bougent, alors il faut les regarder. Et quand on les regarde, peut-être que ça ne va pas. Donc il faut que les choses ne bougent pas. Et il faut qu'il y ait un coupable quand les choses bougent. Et ce coupable, c'est son fils David qui casse, qui mord, qui empêche l'image familiale d'être parfaite. Et c'est beaucoup plus confortable, en fait, de dire qu'il y a un fou dans la famille, que c'est lui le problème, plutôt que de dire que si c'est pas le problème, qui est le problème et d'où vient le problème. Donc ça, c'est très agaçant pour tout le monde que ce David soit là et qu'il fasse autant de bruit et qu'il y ait autant de problèmes à cause de David. C'est très, très agaçant et, mais sous, quand on regarde un tout petit peu plus profondément, c'est très, très arrangeant, c'est très, très confortable.
Oui, parce que c'est quand même une famille qui est régie par des codes bourgeois très très puissants, avec cette figure tutélaire de la grand-mère qui déjà qui tient les cordons de la bourse et puis qui décide comment sa fille, son gendre et ses petits-enfants doivent vivre.
C'est une famille où tout le monde est enfermé. Donc la grand-mère enferme la mère enferme les enfants. Et personne ne doit dépasser. Il y a un seul agent qui dépasse, et c'est ce petit garçon. Et donc la conclusion de tout le monde, c'est que de toute évidence, il est fou. Parce que s'il n'est pas fou, les autres le sont. Et ça, c'est pas acceptable, c'est pas audible. Mais effectivement, il y a toute une tradition d'enfermement qui se passe de génération en génération. Et que à part David, personne n'a questionné. Et quand elle est questionnée, c'est assez mal reçu.
Il y a un point de bascule qui se produit dans vos deux romans à l'âge de 10 ans, puisque à l'âge de 10 ans, les jumeaux Noé et Jérémy vont sortir de cet enfermement et commencer à être socialisés, à aller à l'école. Et dans votre livre, tout se passe l'été de leurs 10 ans. Pourquoi cet âge-là ?
Toutes ces choses qu'on ne sait pas sur nos propres livres.
C'est ça. Je sais pas très bien. Moi, j'ai mis une limite un peu arbitraire, je pense. J'avais cette image du moment de bascule entre. Il y a un tyran qui règne par la force, par le langage et par la force, et par la raréfaction du langage et par l'expression de la force brute. Et la force brute, elle ne marche qu'un temps. Et il y a un moment donné où les enfants commencent à grandir. Et c'est plus du tout la même chose d'essayer de battre un enfant de 10 ans qu'un enfant de 5. Et donc j'avais cette image-là du moment où Jérémy allait retenir le bras de son père. Et c'est ça un peu le point à partir duquel le récit de leur enfance est organisé. Il y a le moment de leur découverte. Évidemment, mais il y a le moment où finalement ils se dressent, parce que c'est une histoire d'enfermement, mais c'est une histoire d'émancipation, comme à peu près tous les récits d'enfance, comme E.T. et les Goonies, quoi. C'est un moment donné où l'enfant doit se libérer de ce qu'on lui a posé comme cadre, de ce qu'on lui a mis sur les épaules, de tout ce qu'il doit porter consciemment ou inconsciemment, et y compris, en l'occurrence, les jumeaux, ils doivent se libérer de leur père, mais ils doivent se libérer l'un de l'autre au bout d'un moment. Et c'est ça, finalement, je disais que le lien fraternel m'obsédait dès le début de l'écriture de ce livre. Et c'est ça qui m'obsède qui m'interpelle profondément dans le lien fraternel. C'est le moment donné où on se dit qu'on a eu un allié indéfectible pendant toute notre enfance. On a avancé ensemble, on s'est construit l'un l'autre. On a été le rempart et en même temps que le tremplin, etc. Et à un moment donné où, comme les arbres, il faut s'écarter l'un de l'autre. Sans ça, il n'y a pas vraiment de vie possible. Et c'est pour ça qu'ils sont jumeaux. C'est parce que ça accentue finalement encore plus dramatiquement cette question-là. C'est une question qui se pose sans doute dans toutes les fratries. Et je me disais que dans le cadre d'une gémellité parfaite, de deux enfants qui apparaissent les mêmes mais qui ne sont pas les mêmes et qui donc vont avoir des besoins différents, le moment où l'un trouve une espèce d'ancrage dans le sol, c'est le moment où l'autre s'envole.
Pareil, je n'y avais pas réfléchi à la question des 10 ans. Ils avaient 10 ans. Que David avait 10 ans et puis il avait cette tête et puis il s'appelait David. Ce genre de choses qui nous apparaissent et qu'on questionne pas, parce que si on commence à tout questionner, on se perd et il y a des choix à faire en écriture et parfois on n'a aucune justification. Ce qui était important pour moi, particulièrement dans le cas d'Olive, c'était aussi de montrer comment en grandissant elle avait de plus en plus honte de ce frère qui dépasse, de ce frère un peu monstrueux, et comment à 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça allait encore. Mais avec l'arrivée de l'adolescence, la prise en compte des regards sur soi, particulièrement quand on est une petite fille, et donc des regards sur ce frère, de voir comment petit à petit la honte s'installe et crée... peut-être le berceau de l'immense trahison que sera la nuit pour Olive et David, et qui est l'impulsion de tout le livre, puisque c'est un livre de culpabilité et de rédemption.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Enfin, cette question de la fidélité ou de la trahison, elle est vraiment au cœur du livre, et d'ailleurs dans le vôtre aussi, puisque au fond toute la problématique de Olive, c'est est-ce que je reste dans le camp des fous, dans le camp de mon frère, ou est-ce que je bascule dans le monde des adultes et dans le monde rationnel.
Oui, et tout indique pour elle que aller dans le monde des adultes et le monde rationnel, c'est un monde où elle sera aimée, on lui dira pas qu'elle est folle, c'est le monde de la norme, c'est le monde où alors on choisit pas forcément la liberté, on escalade pas forcément la grille, mais c'est un monde où on est très protégé, et c'est le choix qu'a fait sa mère avant elle et probablement le choix qu'a fait sa grand-mère avant elle. Je vais pas révéler ce que choisit de faire Olive, mais effectivement rester auprès de son frère, c'est un énorme risque pour elle. C'est avoir la vie de son frère qu'elle ne veut pas forcément.
Et en même temps, sachant qu'ils sont en train de faire une grosse bêtise, elle est quand même fidèle à leur rêve d'enfant jusqu'à cette nuit-là.
Oui, elle est fidèle jusqu'au bout, jusqu'au moment où il faut choisir. Et au fond, je ne veux pas trop en dire sur ce qui se passe cette nuit-là, mais l'option où elle ne trahit pas son frère aurait quand même été une option absurde. Il n'y avait pas forcément de bonne option pour Olive. Elle a choisi l'option la plus sécurisante, finalement. Mais c'est vrai que jusqu'au bout, elle est son alliée et elle fait un pas de côté seulement à la fin.
Est-ce que vous posez cette question aussi de la fidélité ou de la trahison? Parce qu'avec cette séparation, évidemment, on se pose ces questions-là.
Oui, évidemment, il y a un moment charnière dans le livre dans lequel il y a un choix peut-être pas aussi qui paraît peut-être plus anodin au début, enfin quand il est présenté, mais qui a des conséquences assez dramatiques de savoir s'il va revenir ou s'il va rester, s'il va repartir au loin et où est son allégeance, quoi. Est-ce qu'il doit être fidèle à cette histoire-là, ou est-ce qu'il peut s'inventer un futur hors de ces frontières-là? Et oui, elle est centrale, cette question, parce que voilà, j'ai l'impression qu'elle nous traverse en permanence dans le rapport fraternel et sororal, évidemment, mais dans le rapport aux parents, dans le rapport aux grandes amitiés, dans le rapport à l'amour, et c'est un... Voilà, il y a ce que ça a de particulier dans l'enfance, peut-être, c'est que c'est la première fois. Il y a une sorte de perte de virginité de ce point de vue-là, comme un tremblement de terre, et après on voit ce qui reste debout.
Oui, mais enfin, cette fidélité, c'est pas seulement une fidélité à l'enfance ou aux origines, c'est aussi une fidélité à des convictions politique pour le coup. voilà, comment on protège la nature, puisque donc je vous le dis si vous n'avez pas lu le livre, mais ce père et ses enfants vivent dans une demeure en pleine forêt, et puis très loin de la ville, à la périphérie de la périphérie, et puis les bulldozers se rapprochent. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait pour défendre le territoire? Donc là, c'est une vraie question politique que vous posez.
Oui, 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 c'est une question de pour le narrateur en tout cas, c'est une question de d'héritage. C'est est-ce que l'attachement qu'il ressent envers la terre, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il vient d'ailleurs, est-ce qu'il est hérité, est-ce qu'il doit nécessairement lui le prendre sur ses épaules, ou est-ce qu'il peut transmettre la charge à quelqu'un d'autre? Je sais pas, c'est un peu comme un enfant malade ou un parent malade. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Il y a une obligation qui nous est faite, et il faut se débrouiller de ça avec son désir initial de vie, avec sa pulsion de vie. Et je me suis pas posé vraiment la question pas du tout de la validité de cet engagement-là. Au contraire, c'est vraiment un des moteurs de l'écriture, mais je vois pas Noé comme un désengagé. Je vois Noé comme un type qui a attrapé la bouée qu'il a trouvé, quoi, un peu par hasard, un peu comme ça. Il forme d'autres allégeances au fur et à mesure.
Est-ce que quand vous parlez d'un enfant fou, vous avez une envie de transformer le regard plus largement que celui de cette fiction? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus vaste?
Je ne sais pas si je pourrais avoir la prétention au pouvoir de transformer un regard. Ce qui est certain, c'est que la question de la domination adulte sur les enfants est une question qui est très importante pour moi. La façon dont on reçoit ce que les enfants donnent et l'immense responsabilité, l'immense pouvoir qu'ont les parents sur leurs enfants. Et un pouvoir qui, même comme dans le cas du livre, même quand il se passe rien de dramatique, il s'agit pas d'une mère qui enferme ses enfants dans une cave, qui les maltraite. Ce sont des micro-violences qui sont quotidiennes, qui sont légères, mais qui en fait font dévier complètement la ligne de l'existence à la fois d'Olive et à la fois de David. Il y a une immense responsabilité pour les parents et pour tous les adultes de recevoir ce qu'a à dire l'enfant dans le registre qui est le sien. Sans tenter de le transformer, sans tenter de plaquer sur lui un rôle. C'est une question qui me bouleverse et que j'ai essayé d'explorer dans le livre. J'ai parfois l'espoir que certains parents réexaminent peut-être leur rapport à leur enfant en lisant le livre. Mais c'est peut-être un espoir vain, ça, j'en sais rien.
Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques? Oui, madame. Il y a un micro qui va circuler.
Bonjour. C'est une question pour Alexandre Leneau. Je vous ai écouté aussi tout à l'heure à 11h et maintenant, et les deux fois, vous avez fait référence au fait que les jumeaux n'ont pas la même couleur de peau que leur père. Mais après, dans le récit, dans ce qui est raconté, ça n'apparaît plus. Donc, je voudrais comprendre quel rôle ça a dans votre roman.
Ça n'apparaît pas de manière frontale, parce que je voulais pas en faire le sujet principal du livre. Mais en gros, ils ont à la fois pas la même couleur de peau que leur père. La mère s'est évaporée à la naissance, et ils vont découvrir au fil du roman qui elle était. Ils n'ont que des bribes d'informations. Leur père refuse d'abord d'en parler, ou n'en parle que de manière... il leur sert une espèce de conte d'enfance, sans jamais rentrer dans des détails qui, eux, les intéresseraient. Et en découvrant cette mer, ils vont découvrir qu'ils sont métis. C'est finalement un énième écho, une énième incarnation de la différence dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment comment le monde accueille des enfants, en l'occurrence là, des enfants qui sont pas tout à fait comme les autres. Et c'est le pas tout à fait qui m'intéresse, et c'est pour ça qu'ils sont métis. C'est pas quelque chose de très tranché, de très noir et blanc, de très manichéen. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui n'est pas totalement discernable. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est de ce qui peut pas être assigné. Voilà, j'ai l'impression que l'époque est aux assignations fortes définitives. Et je voulais un personnage qui soit dans l'entre-deux, qui soit à la fois jamais sûr de rien, mais sûr d'une certaine manière de sa singularité.
Oui.
Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste pour vous rassurer, parce que la corde n'est pas tombée en lisant votre livre. C'est la forme narrative est époustouflante, hein, vraiment. Et si je peux vous donner juste un conseil, peut-être qu'il faudrait que vous couchiez avec les critiques littéraires, parce que franchement, je ne comprends pas que votre livre n'ait pas plus de presse, parce que c'est un des livres de la rentrée littéraire qui est largement au-dessus du lot.
Merci beaucoup.
Une autre question sur les critiques littéraires.
C'est pas une question, c'est une frustration. J'aurais bien voulu lire la version d'Abigail où c'était tout mélangé chronologiquement.
On ne comprenait rien.
Mais ça fait rien, je suis pas sûr de ça.
On peut peut-être terminer par un tout petit temps de lecture l'un et l'autre, parce que c'est bien qu'on entende la langue. Abigail, si vous voulez commencer.
C'est le tout début du livre. Il y a ce rêve étrange que je fais parfois où David et moi, à 10 ans, marchons sur les rails du passage à niveau. Il est minuit. Nous marchons et soudain nous glissons sur une neige de ballast et de barres d'acier qui chauffent à notre contact. Les étincelles ne nous font pas mal. Nous glissons et soudain nous volons, de gare en gare entre les hêtres. Nous volons bras et jambes ouverts, David et moi, son visage rond de pleine lune, avant la haine et les ravages. Nous atteignons Nemours, Bourou-Marlopte, Soupe-sur-Loing. Nous atterrissons juste devant la grille de chez nous, où une maman de mon âge aujourd'hui nous dispute, nous ordonne de rentrer immédiatement. David baisse le regard, fait un pas triste vers la maison. Mais moi, je ne baisse pas le regard. Moi, je regarde maman. Je me mets alors à danser. C'est un numéro de music-hall avec du mime et des chansons, des pirouettes, un numéro de clown et de magicienne, de gymnaste, que j'ai 100 fois déployé pour mon frère. Et David, près de moi, se met à danser aussi. Nous dansons dans l'allée en fixant notre mère ahurie sous le ciel noir. Le bitume sous nos pieds se transforme en rail, et sur les rails, nous dansons et nous rions comme deux petits diables. Je fais ce rêve et ce n'est pas ce qui s'est passé pour de vrai cette nuit-là, mais ce n'est pas grave. Avec mon frère David, nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Merci.
C'était l'idée de Jérémy, bien sûr. Il est entré dans la chambre comme un torrent qui dévale la montagne en riant. Il m'a arraché mon casque. A éteint la musique, j'avais choisi un morceau qui s'appelait Nomade, découvert par hasard. Le nom du groupe, Bédouin Burger, m'avait fait rire. Il m'a saisi les doigts pour m'empêcher de continuer à compter les temps, et il m'a tiré, poussé, botté le cul pour que je descende, sûr de son fait et sourd à mes protestations. En bas, toi, tu étais déjà prêt, et de hautes cuissardes nous attendaient. Tu as dit d'une voix sobre, « Ton frère veut qu'on te montre ». Tu avais l'air content de lui, de toi, de vous. Nous sommes avancés dans la rivière à moitié immergés, 3 explorateurs venus d'un continent lointain à la recherche d'une cité oubliée qu'ils auraient vue en rêve. Et nous l'avons remontée bien plus loin que je n'étais jamais allé, jusqu'à un endroit où son lit s'élargissait et d'où on pouvait presque apercevoir la fin ou le début de la forêt. C'est là que vous vous êtes campé dans l'eau et que vous avez fait tourner autour de vos têtes de longues lignes qui passaient en vibrant doucement au-dessus de nous et qui bientôt ont frôlé l'eau sur des dizaines de mètres, vos cercles ne faiblissant jamais, chacun au rythme qui lui était propre, deux hommes du même sang qui tentaient de s'accorder, le sourire vous montait aux joues, tu étais dans ton élément, mon père, à la frontière entre le monde de l'eau et celui de la terre, tout entier absorbé dans tes mouvements, heureux de cette activité qui requérait de chacun le plus grand silence, perpétuant des gestes qui t'avaient été transmis par l'exemple bien avant nous, et puis fier sans doute de ce fils qui se tenait à ton côté et avait bien voulu apprendre de toi. Jérémie, dont le regard presque candide, satisfait, passait sans arrêt de l'opacité de l'eau à moi, car chaque trésor qu'il trouvait dans le monde n'avait de valeur que s'il pouvait me le confier. Et moi, entre vous deux, constatant la parenté de vos gestes et de vos silhouettes, je restais courbé en avant de peur que vos lignes ne m'agrippent, à égale distance de l'un et de l'autre. J'étais le témoin de vos bras ne faiblissant pas, et j'entendais le souffle régulier de vos efforts qui fraternisaient peu à peu. Vous aviez l'air invincible. J'entendais le murmure de la rivière et le léger tremblement de vos lignes qui le troublaient à peine et qui pour un peu auraient pu l'épouser. Je tenais le panier dans lequel nous ne garderions aucun gardon, et dans ces lumières matinales et tremblantes qui accueillaient toutes les rêveries, même les plus indécises, je vous imaginais vous fondre l'un dans l'autre. J'imaginais le fils qui deviendrait le père, qu'il serait alors plus facile d'aimer. J'imaginais que je pourrais moi aussi en danser au soleil.
Merci. Merci beaucoup. On va donc s'arrêter là. Je rappelle les titres de vos livres, Abigail Assor, La nuit de David, publié chez Gallimard en collection blanche, et Alexandre Leno, Cette vieille chanson qui brûle, publié chez De Noël. Merci à toutes et tous.